Ça va? C'est bon? Okay. Merci encore pour l'accueil que vous nous avez réservé. Avec Christelle, on est vraiment bénis d'être avec vous. C'est le début d'une grande histoire. En tout cas, gloire à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de vous et ce qu'il va continuer à faire. Vous avez campé dans Jean 4, qui est dans pratiquement, je dirais, tous les manuels d'évangélisation de qualité, le passage qui est mentionné comme la stratégie d'évangélisation la plus spectaculaire, la plus remarquable dans les évangiles. Je pense que vous avez noté le processus, un processus que mon collègue Alain Stamp appelle SIC. S pour S, I pour I, C pour C. S-I-C. Le S, c'est la situation. En fait, toute conversation naît à un moment donné d'une situation qui se présente à Jésus et qui va lui permettre de pouvoir annoncer l'évangile. Et là, la situation, ben, c'est lui qui la provoque. On sait qu'au début du chapitre 4, verset 4, il fallait qu'il passât par la Samarie. Donc, il avait rendez-vous avec cette Samaritaine. Évidemment, vous savez et vous connaissez le contexte, les disciples n'étaient pas tellement sûrs que ça valait le coup de passer par la Palestine. Entre parenthèses, il m'a fallu quand même 4 voyages en Israël pour arriver à cet endroit-là précis, au puits de Jacob, parce que c'est compliqué d'y accéder aujourd'hui. C'est un territoire qui est un territoire occupé, palestinien. C'est un territoire qui est souvent emprunt à pas mal de conflits, y compris même internes à la Palestine. Et donc, ça m'a pris quand même 4 voyages pour arriver à pouvoir visiter cet endroit, le puits de Jacob. Comme disait mon prof de Nouveau Testament, ce qui est bien avec les puits, c'est qu'ils ne déménagent pas. Donc, tu peux les retrouver. Et les montagnes, c'est pareil. Donc, tout le contexte que vous avez ici, il est encore d'actualité. Si vous allez à Naplouse, qui est le nom de la ville actuelle, vous verrez qu'au-dessus de la montagne samaritaine, il y a encore une église samaritaine qui s'y retrouve avec à peu près 250 religieux qui pratiquent encore la religion samaritaine telle qu'on la voit ici dans ce texte-là. Et il a envie de passer par ce territoire occupé. Et les Juifs, en tant que bons Juifs, un peu comme quand vous allez aujourd'hui à Tel Aviv et vous allez louer une voiture, on vous explique que c'est interdit de rentrer dans les territoires palestiniens avec une plaque juive. En fait, même l'État israélien a fait en sorte que le GPS sur votre voiture, lorsque vous franchissez en fait un territoire occupé, il n'y a plus de map, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus rien. Vous disparaissez, c'est comme si l'endroit n'existait pas sur la carte. C'est assez étonnant. Assez étonnant. Et donc c'était la même complexité qu'à l'époque. Et donc les disciples ne sont pas trop sûrs qu'ils ont envie de s'aventurer avec une plaque juive dans le territoire palestinien. On en est rendu 2000 ans plus tard, un peu au même endroit, malheureusement. Il fallait qu'il passât par Jérusalem, par la Samarie. Et là, il arrive dans la ville de Samarie, nommée Naplouse, près du champ que Jacob avait donné à son Joseph. Et donc là, il commence cette conversation avec la femme en lui disant « Donne-moi à boire ». Ça, c'est le S pour situation. D'accord ? Il crée cette situation et commence une conversation. Et puis on voit très vite que cette conversation va s'animer et puis que la Samaritaine répond. Et à un moment donné, Jésus va, dans cette situation-là, lui donner un « i », une information. Et l'information est la suivante. Si tu savais celui qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous notez le processus? Dans une situation donnée, autour d'un puits où on parle d'eau, Jésus lui donne une information qu'il est l'eau vive. Il est celui qui peut étancher sa soif. Elle qui est venue au puits chercher de l'eau, il lui est venu lui parler d'une autre eau, cette eau de vie qui lui permet de pouvoir s'abreuver de manière éternelle et étancher la soif de son âme. Et puis, alors que la Samaritaine cherche à savoir de quel type de prophète il est, il va à un moment de lui donner aller plus loin que l'information et il va aller au C qui est la confrontation. C'est le verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut. Il faut. » Et donc là, il la confronte. Il la confronte en disant, est-ce que tu es une adoratrice en esprit, en vérité, ou est-ce que tu vas continuer à camper, à savoir est-ce que Dieu habite sur cette montagne ou là-bas, au temple de Jérusalem ? Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que ce matin, tu l'adores en esprit et en vérité ? Oui ou non ? Il faut. C'est la confrontation. Vous avez noté le processus ? S-I-C. Dans tous les passages de l'évangile, vous pouvez retrouver ça. S-I-C. Un jeune homme riche vint voir Jésus en lui disant « Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Okay. Et là, on pourrait se dire « C'est super, ça y est, Jésus va enfin pouvoir dégainer en lui disant « Il faut que le Père adore, faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit en vérité. Est-ce que tu veux l'adorer en esprit en vérité ? Est-ce que c'est ça qu'il dit à l'homme riche ?» Non, il ne dit pas ça. Il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que Dieu qui est bon. Et lui donne une information. Et c'est seulement plus tard dans le passage qu'il va le confronter en disant « Tu as respecté la première tablette de la loi. La deuxième tablette de la loi, c'est « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Va et vends tout ce que tu as. » Je dis ça parce que souvent, dans l'évangélisation, on est tenté de commencer par la confrontation. Est-ce que tu aimes Jésus ? Est-ce que tu connais Jésus ? Est-ce que tu lui as donné ta vie ? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés ? Ça, c'est l'aspect confrontation. C'est vers ça qu'on aimerait tendre dans l'évangélisation. Et effectivement, si on ne confronte pas à un moment donné les gens dans ce qu'ils croient, est-ce qu'on a à évangéliser ? Mais ça serait faire fi du contexte de situation. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans notre évangélisation, il faut qu'elle se situe dans un cadre. Et le cadre le plus propice, ça peut être évidemment le cadre de relations interpersonnelles qu'on a avec nos amis. J'étais à table ce matin et quelqu'un me racontait une conversation d'évangélisation avec sa coloc. Ça, ce sont des situations qui sont données tout le temps. Et là, vous pouvez donner une information, à un moment donné, une information supplémentaire sur qui est Jésus ou ce qu'il a fait pour elle, et ensuite, à partir de cette information, aller vers la confrontation. Mais aller confronter les gens avec l'évangile sans leur donner de l'information, c'est un non-sens. Et hors contexte situationnel, c'est encore plus un non-sens. Okay. Je vous rappelle encore une fois l'histoire du chemin de l'incarnation versus le chemin de la résurrection. Dans le chemin de la résurrection, si les gens étaient convaincus que Jésus existait et qu'il était le Fils de Dieu, il fallait qu'ils clarifient qu'est-ce qu'il avait fait pour lui à la croix. Et c'est pour ça qu'on allait assez rapidement à l'information et assez rapidement à la confrontation. Mais dans le chemin de l'incarnation, il faut reprendre cette capacité qu'avait Jésus de créer des situations qui nous permettent après d'apporter des informations sur qui est Jésus, ce qu'il a fait, et ensuite seulement aller vers la confrontation. Ça va ? C'est bon ? Donc ça c'est l'histoire que vous avez étudiée ce matin. C'est une démonstration absolument magistrale de la façon dont il faut évangéliser. S-I-C. Ça va ? Ok. Mais c'est pas du tout ça dont je veux parler ce matin. Je veux parler d'une autre histoire, une contre-histoire. C'est toujours dans le chapitre 4 et ça continue juste après. Et si l'histoire qu'on vient de voir ensemble de Jésus et la Samaritaine, c'est une démonstration absolument magistrale de comment il faut évangéliser, l'histoire qui suit est une démonstration absolument pitoyable de ce qu'il ne faut justement pas faire. D'accord ? Donc vous avez dans un premier temps l'exemple, S-I-C, ce que vous avez vu ce matin, et maintenant vous allez voir le contre-exemple. Okay ? Et ça commence au verset 27. Après que Jésus ait confronté la Samaritaine et qu'il lui ait dit « Je suis moi qui te parle, le Messie, qui doit annoncer toutes ces choses », là-dessus, verset 27, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ces gens-là sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» 34. « Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Je saute au verset 39. « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Seigneur, nous prions que tu nous donnes un cœur pour ta parole et une parole pour notre cœur. Amen. Quelle est la différence entre ce récit des disciples qui offre une démonstration regrettable, pitoyable, d'une évangélisation complètement ratée, et celle de Jésus avec la Samaritaine qui, avec excellence et brio, applique le processus SIC. Pourquoi un tel décalage? Demande à ton voisin pourquoi un tel décalage. Eh bien, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Parce qu'ils ont perdu de vue, ces disciples, 4 notions élémentaires de l'évangélisation. 4 notions élémentaires de l'évangélisation, c'est ça qui explique ce décalage. Ça va? C'est bon? Tout le monde est là avec moi? Ok. Première notion élémentaire qu'ils perdent de vue et qui explique ce décalage, les disciples perdent de vue la notion de valeur. On dit, mais tu vois ça où dans le texte? Ben, au verset 31 à 33. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais Jésus leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Première notion, les disciples perdent de vue la notion de valeur. Là où Jésus a une notion spirituelle, a une valeur spirituelle, a une lecture spirituelle de la situation, eux ont une lecture matérielle, matérialiste de la situation. Leur préoccupation, c'est le sandwich. C'est pour ça qu'ils sont allés au village. Ils sont allés au village pour aller acheter un sous-marin à Subway. Et ça leur a sûrement pris beaucoup de courage d'aller chercher un Subway à Naplouse, connaissant le contexte. À mon avis, ils ont dû revenir quand même assez rapidement parce qu'ils n'ont pas dû s'éterniser au pub. Et là, ils arrivent et leur préoccupation, c'est que Jésus mange le sandwich qu'ils sont allés chercher. Okay. Ils sont préoccupés par le sandwich. Rabbi, mange, mange. Et Jésus dit, j'ai déjà mangé. Et là, la tuile. Les disciples qui se disent, c'était pas-tu qu'on a raté un McDonald's entre là où on était, là où on allait chercher le kebab. Qui c'est qui lui a apporté à manger? Puis ils se regardent et ils disent, c'était-tu la femme qui lui a apporté un sandwich? Jésus, lui, il a une lecture spirituelle. Parce que c'est ça qui l'anime, c'est ça qui est au plus proche de sa valeur. Tout est spirituel pour Jésus, y compris le contexte dans lequel il est. Et c'est la situation qu'il a créée, c'est bien pour ça qu'il voulait passer par la Samarie. Mais eux ne voient pas cette réalité spirituelle, ils n'ont qu'une lecture matérielle. Jésus est le sandwich d'en haut. Je suis le pain d'en haut. Je suis le pain de vie, je suis de l'eau de vie. Celui qui a faim et qui a soif, je lui donnerai du pain et de l'eau. Les disciples, eux, sont préoccupés par le sandwich d'en bas, alors que Jésus, lui, est le sandwich d'en haut. Qu'est-ce qui te préoccupe? Le pain d'en haut ou le pain d'en bas? Tu es venu au Canada, où tu fais des études en tant que Québécois, Québécoise, pour le pain d'en haut ou le pain d'en bas? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta vision quand tu te lèves le matin? Est-ce qu'elle est, elle est matérielle ou elle est spirituelle? Est-ce qu'elle est spirituelle dimanche et matérielle le lundi? On parlait hier soir de cette tentation du sécularisme dans l'Église. Et c'est une vraie tentation, ce qu'on appelle l'athéisme fonctionnel. C'est un cancer. Cette capacité que nous pouvons avoir de se dire chrétien, disciple du Christ, et de fonctionner comme des athées. Parce que nous sommes d'abord préoccupés par le pain d'en bas. Et c'est paradoxal de festoyer sur le pain d'en haut le dimanche et puis assez rapidement, dans un autre temps, changer de lunettes et changer nos échelles de valeur pour privilégier le matériel sur le spirituel. Et c'est d'autant plus regrettable que souvent nos parents nous poussent à accumuler le pain d'en bas, à faire carrière. Et comment réconcilier le pain d'en bas du pain d'en haut? Mon père, lui, il était toujours préoccupé par le pain d'en bas parce qu'il a vécu dans une famille entre un père alcoolique et une maman qui essayait tant bien que mal avec un travail de nuit de pouvoir mettre du pain sur la table. À l'âge de 12 ans, il fallait qu'il aille voir les voisins pour quémander en tant que frère aîné et pour mettre du pain d'en bas sur la table. Et c'est sûr que lorsque je lui ai dit que j'arrêtais ma carrière dans la finance et la gestion d'entreprise pour rentrer dans le ministère, ça a été dramatique pour lui. Absolument dramatique. En se disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire même à mes patients, lui qui est médecin. Mon fils vit de l'aumône. Il est incapable de pouvoir mettre du pain d'en bas sur la table, donc il demande aux gens de le soutenir pour le ministère. Mystère du ministère. Et ça a été une lutte. Quand je suis parti me former en théologie, j'avais un petit Adam de 3 mois. Je suis parti avec mon épouse et on avait juste assez pour vivre 6 mois. Se payer des études qui semblaient vraiment hors de portée d'un point de vue financier, mais on sentait que le Seigneur nous invitait à partir à l'aventure et nous former théologiquement. Et il me dit, mais tu pars où avec ton bébé là? Et comment est-ce que tu vas mettre le pain d'en bas sur la table? C'était sa préoccupation. Et lui, il me disait toujours, tu sais Raphaël, Dieu c'est la cerise sur le gâteau. Préoccupe-toi du gâteau, puis ensuite tu peux mettre Dieu comme une cerise. Un élément de décoration. Mais en même temps, je comprends d'où il vient. On parlait hier de précarité. Et pour lui, ce qu'il a vécu, il ne souhaite ça pour le rien du monde. Peut-être ce week-end, tu as vécu un correctif. Et peut-être rendu compte que ce qui t'animait, c'était le pain d'en bas. Et que le Seigneur t'invitait à renouveler cette vision spirituelle du pain d'en haut. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Le pain d'en haut et toutes choses vous seront données en plus. On l'a dit, le problème, ce n'est pas l'accumulation du pain d'en bas. Comprenez bien, moi, mon grand-père, c'était un fermier ménonite. Qui un jour fut approché par un industriel juif, M. Simonin, qui cherchait un second. Et mon grand-père, du jour au lendemain, est passé des terres agricoles à une école de commerce. Il lui a payé ses études et il est devenu son bras droit parce que M. Simonin cherchait un homme de confiance et il avait entendu parler de mon grand-père qui était un homme intègre. Et à partir de là, il l'a invité à le rejoindre dans l'entreprise. Deuxième guerre mondiale éclate. M. Simonin, en 1944, est déporté avec sa famille à Auschwitz et il ne reviendra pas. Et mon grand-père se retrouve à l'après-guerre à hériter d'un empire industriel dans le textile. quand mon grand-père est décédé, ma maman, avec ses frères et sœurs, ont nettoyé son bureau et ont retrouvé des souches de chéquier. Et ils étaient absolument effarés de voir le nombre de dons que mon grand-père faisait pour la mission. Il n'en était pas conscient. En fait, mon grand-père faisait tout son chiffre d'affaires en une matinée. Il appelait l'Inde, il appelait le Portugal, l'Espagne, l'Afrique, et faisait tout son commerce en une matinée. Et ensuite, il priait tout le reste du mois pour savoir comment dépenser l'argent. Mon grand-père a toujours conduit la même voiture, une DS. C'était sa voiture. Il avait déjà résolu dans son cœur quel serait son niveau de salaire. Et tout ce qui dépassait, il donnait. Vous savez, le paradoxe dans cette histoire-là, c'est que mon premier ministère, après mes études de théologie, était avec un ministère qui s'appelle France Évangélisation, qui avait démarré en 1954. Est-ce que vous savez qui c'est qui finançait France Évangélisation ? C'était mon grand-père. Et quand je suis rentré dans l'œuvre, je ne savais pas. Tous mes collègues me disaient, mais ton grand-père, mais bien sûr, on connaît. Ta maman, on l'a connue quand elle était petite. C'est lui qui organisait les campagnes d'évangélisation pour que nous, en tant qu'évangélistes, on puisse proclamer l'évangile dans toute la vallée des Vosges. Vous comprenez ? Vous pouvez être franchisé McDonald's ou Subway ou toute une chaîne de kebab au Québec. Ce n'est pas mon problème. Vous voyez, le problème n'est pas avec le sandwich d'en bas, c'est d'adorer le sandwich d'en bas qui est le problème. Et mon grand-père avait résolu dans son cœur. Ça, c'est la part qui me revient. Et tout le reste, je donne. Et il a beaucoup donné. Et ses enfants étaient absolument étonnés de voir la générosité de mon grand-père. Un théologien argentin dit la chose suivante. Je vais le citer, puis après je vais faire un appel. Je vais vous donner l'occasion de pouvoir, pour ceux qui le veulent, juste manifester votre désir de recentrer vos valeurs sur le spirituel plutôt que le matériel. Donc après cette citation, je vous donnerai l'occasion de pouvoir vous mettre en règle si vous le souhaitez. Ce théologien argentin dit « Ainsi prend forme la plus grande menace de l'Église, le triste pragmatisme de la vie quotidienne, dans lequel apparemment tout arrive normalement alors qu'en réalité la foi s'affaiblit et dégénère dans la mesquinerie. La psychologie de la tombe, qui transforme peu à peu les chrétiens en momies de musée, se développe. Déçus par la réalité, par l'Église ou par eux-mêmes, ils vivent la tentation constante de s'attacher à une tristesse douceâtre, sans espérance, qui envahit leur cœur comme le plus précieux des élixirs du démon. Appelés à éclairer et à communiquer la vie, ils se laissent finalement séduire par des choses qui engendrent seulement obscurité et lassitude intérieure et qui affaiblissent le dynamisme apostolique. Pour tout cela, je me permets d'insister, ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. Si ce matin tu désires festoyer sur le sandwich d'en haut, parce que tu comprends que l'horizon matériel ne viendra jamais étancher ta faim ni ta soif, alors je t'invite là où tu es sur la chaise simplement à lever la main comme un signe vers le ciel en disant « Seigneur, je me repens ce matin. Et je te dis, tu es le pain d'en haut et tu es celui sur lequel je veux festoyer. Je suis là, je suis juste là, du pain d'en bas. Et je me rends compte que je me suis planté, que mes études ne sont pas là juste pour alimenter le pain d'en bas. Et que si tu me donnes du pain d'en bas en abondance, ça sera toujours pour honorer le pain d'en haut. » Oui, je vois ta main. Je vois ta main. D'autres qui veulent aussi se joindre et se dire, Seigneur, ce matin, je me repens. Je veux que les valeurs soient claires. D'abord le spirituel, d'abord les choses d'en haut. Et toute chose viendra. Oui, je vois ta main. Ouais. Seigneur, je te bénis pour mes frères et mes sœurs qui veulent festoyer sur le pain d'en haut plus que le pain d'en bas. Et ce matin, tu les nourris en te disant, prends, voici mon corps, voici mon sang, versé pour toi. Amen. Amen. Vous pouvez baisser la main, merci. Première raison pour laquelle il y a un tel décalage, c'est parce qu'ils perdent la notion de valeur. Deuxième raison pour laquelle il y a un décalage entre Jésus dans sa démonstration magistrale et les disciples dans cette démonstration pitoyable, c'est qu'ils perdent de vue la notion de mission. Tu me dis, mais où voit ça? Où? Ben, au verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La mission de Jésus, c'est d'accomplir la volonté du Père. C'est ça, sa mission. C'est d'accomplir la volonté du Père. Alors, on peut se poser la question, ben c'est quoi la volonté du Père? C'est une bonne question, non? Okay. Ben, vous allez dans le chapitre 6, le verset 29. Si la préoccupation de Jésus, c'était d'accomplir la mission du Père, on peut se poser la question, c'est quoi la mission du Père? Tout le monde suit? Ok, chapitre 6, qui c'est qui lit le verset 29, s'il vous plaît? Vas-y. Et ben voilà. Si vous voulez savoir quelle est la mission qui animait Jésus, c'était de poursuivre la mission du Père, qui était que vous puissiez croire à celui qui l'a envoyé. Autrement dit, pour ceux qui prennent des notes, la mission de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous le connaissiez et que vous le fassiez connaître. Le connaître et le faire connaître. To know him and to make him known. Ça, c'était le motto de là où j'ai fait mes études de théologie. Le connaître et le faire connaître. C'est ça, la volonté de Dieu. Et c'est totalement paradoxal. Pourquoi? Mais parce que pour les disciples, ils avaient accompli la volonté de Dieu, déjà. Autrement dit, ils viennent de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jérusalem? Ils sont allés au temple. Et au temple, c'est là où tu fais la volonté de Dieu. Ok, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien que Dieu habite dans l'Église. Amen. Et d'ailleurs, vous avez des fois dans les églises où vous voyez le panneau de sortie et avec cette banderole, et maintenant vous entrez dans le monde. C'est flippant, hein? De se dire, mais à combien on doit laisser le thermostat à l'église pour que Dieu puisse quand même être confortable, tu vois? Est-ce que 18 degrés, ça joue, est-ce que, tu vois? Mais pour eux, ils sont allés, ils ont fait le pèlerinage, ils ont fait le job, quoi. C'est bon, on a coché, quoi, tu vois? C'est étonnant. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas établi son quartier général à Jérusalem? Pourquoi est-ce qu'il s'est établi à Chicoutimi? On sait que rien de bon peut venir de Chicoutimi. Enfin bon, si tu veux changer le monde, ça commence par Ottawa. Enfin, je veux dire, peut-être la ville de Québec, mais soyons sérieux, quoi. Hein, je veux dire. Capernaüm, vous avez été à Capernaüm? Capernaüm, il n'y a rien à Capernaüm. Si, il y a une synagogue, il y a la maison de Pierre. Puis après, voilà, quelques villes. Enfin, c'est Capernaüm, c'est un bled, quoi. C'est vraiment un village. C'est la brousse, quoi. C'est la brousse totale. Pourquoi est-ce que le Fils de l'homme viendrait planter sa cabane dans une brousse? On l'attend à Jérusalem, vous comprenez? Je veux dire, si le Sauveur du monde vient, c'est bien à la capitale, c'est bien au temple. Enfin, le temple, il est là quand même pour accueillir le Messie, on est d'accord, hein? Et à chaque fois que Jésus va à Jérusalem, comment ça se passe? Mal. Surtout au temple. Surtout au temple. Mais oui, mais parce que pour les pharisiens, vous voyez, eux qui savent pourquoi ils savent, pourquoi est-ce qu'ils jugent les pharisiens? Mais parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, eux, ils savent. Et ils savent que Jésus n'est pas assez Dieu pour être Dieu. Le problème, c'est que Jésus ne le sait pas. C'est pour ça qu'il le juge et qu'il se permet de dire, nous sommes disciples de Moïse, peux-tu nous rappeler qui t'envoie? Le père. Lequel père? Abraham, qui est notre père à nous. Et c'est tout le temps la battle. C'est tout le temps la battle. Et eux, ils sont persuadés de faire la volonté de Dieu. Et vous allez retrouver, du coup, d'un point de vue missiologique, une battle de deux paradigmes. Le paradigme de la Galilée, qui est incarné par Jésus et ses disciples, qui est le paradigme de l'itinérance. Et puis le paradigme de Jérusalem, qui est inscrit dans l'histoire du Temple. Et ces deux paradigmes vont à chaque fois rentrer en collision. Et le paradigme de Jésus, qui est celui de faire la volonté du Père, c'est celui de l'itinérance. C'est celui de la Galilée. C'est celui où les disciples viennent le voir en disant « Mais maître, où c'est que tu étais là sur la... ben, je priais pour faire la volonté du Père. » Bref, vous lirez ça dans les évangiles une fois que je suis parti. Et ils disent « Mais il y a les gens qui t'attendent là. » Allons ailleurs. C'est ça le paradigme de la Galilée. Le paradigme de la Galilée, c'est l'itinérance, parce que l'itinérance, c'est quoi ? C'est la volonté de continuer à annoncer Dieu et le faire connaître. Et tout le paradoxe de l'histoire, c'est que dans le lieu même où ça devrait se passer, ça ne se passe pas. C'est-à-dire là où tu attends la mission et l'évangélisation dans le temple de Jérusalem, tu fais part à autre chose qui est de l'idolâtrie. C'est pour ça que Jésus renverse les tables. Entendez-moi bien, hein. Je suis pasteur et je dirige une fédération d'églises. Mais des fois, je rappelle à mes collègues pasteurs que le paradigme de la mission, c'est la Galilée, c'est pas le temple de Jérusalem. Et que des fois, faire tourner le temple devient la mission de Dieu, au détriment de le connaître et de le faire connaître. Dietrich Bonhoeffer disait « L'Église n'est Église que si elle est là pour les autres, en particulier ceux qui sont dehors. » Vous voyez, pour les disciples, ils avaient fait le job, ils avaient fait la volonté de Dieu, ils sont allés à l'Église, ils sont allés au Temple, check. Tu vois, maintenant on rentre à la maison, c'est bon, quoi. Mais pour Jésus, la mission c'est H24, 7 jours sur 7, tout le temps, en tout lieu. Parce qu'il faut le connaître et le faire connaître. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu ? C'est compliqué, hein, parce que du coup, c'est pas forcément en termes d'activité de l'Église que ça se mesure. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous le faites connaître ? Je crois que ce week-end, plusieurs d'entre vous ont été rappelés que votre vocation, c'est d'être témoin, de le connaître et de le faire connaître. Et peut-être que ce matin, vous avez ce désir de retourner peut-être à un premier amour, celui de le connaître et de le faire connaître. Et je vais vous donner l'opportunité ce matin, encore une fois, de répondre à cet appel. Si ce matin, vous avez à cœur de renouer avec ce désir de le connaître et de le faire connaître. Que peut-être vous vous êtes rendu compte que paradoxalement, vous êtes devenu tiède tout en étant fortement intégré dans votre église locale, peut-être même trop occupé, et que vous avez peut-être oublié la première des choses qui est de le connaître et de le faire connaître. Peut-être que c'est le moment de reconnecter. Jésus était passionnément animé par ce souci de faire la volonté du Père, de le connaître et de le faire connaître. Prions. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux ici qui, dans leur cœur, désirent reprendre le chemin de l'évangélisation, de te connaître et de te faire connaître. Je prie là ce matin que tu viennes les visiter. Seigneur, nous souvenons que lorsque tu marchais sur le chemin d'Emmaüs, et que tu parlais de la volonté du Père, de te connaître, de te faire connaître, le cœur des disciples brûlait en au-dedans d'eux. Et je prie que ce matin, le cœur brûle avec ce feu, ce désir profond de te connaître, de te faire connaître, et pas juste de camper sur les activités du temple. Merci parce que tu étais patient avec tes disciples. Eux qui confondaient le pain d'en bas pour le pain d'en haut. Tu veux être aussi patient avec nous. Nous ramener sur ce chemin de la Galilée, celui de l'itinérance, celui de l'aventure, de te connaître et de te faire connaître. Amen. Amen. Premier décalage, ils perdent la notion de valeur. Deuxième décalage, ils perdent la notion de mission. Troisième décalage, qui explique la différence entre ce récit magistral de Christ avec la Samaritaine et pitoyable des disciples, c'est qu'ils perdent de vue la notion du temps. On dit, mais tu vois ça où ? Au verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux. C'est maintenant que ça se passe. Pas dans 4 mois. Les disciples pensent qu'il y a le temps. En fait, pour eux, le temps qui compte, c'est combien de temps est-ce que ça va nous prendre de traverser la Palestine, sachant que c'est un territoire hostile. Et pour eux, la notion de temps, c'est une notion de précipitation du temps. On veut sortir de ce temps. Fais-nous sortir de ce temps. Mais Jésus, lui, il a le temps. Et il va les prendre même à contre-temps, parce qu'il va rester 2 jours de plus. En disant, tiens, t'as envie de partir ? Reste. C'est lui le maître des horloges. Mais quand il dit « Levez les yeux, c'est maintenant que ça se passe », c'est maintenant que ça se passe, pas dans 4 mois. Vous voyez, les disciples se disent oh, « il y a le temps, enfin, la Samarie, c'est bien la Samarie, mais on va d'abord aller en Galilée, on va revoir Simone, ma femme, mes enfants, etc. Puis après, on reviendra, quand on a le temps, on reviendra en Samarie pour faire une campagne d'évangélisation. Mais là il faut rentrer, là, parce que Mimi, elle m'attend ce soir. » Nicky Gumbel disait « Beaucoup de chrétiens croient à l'importance d'évangéliser, mais peu sont convaincus de son urgence. » On est tous d'accord qu'il faut évangéliser. Il faut passer par la Samarie. La question c'est, est-ce que c'est urgent, est-ce qu'on va le faire maintenant ? Ou est-ce qu'on a le temps ? Il y a un tiers de l'humanité qui ne sait pas que Jésus sauve, parce qu'il n'y a personne autour d'eux pour leur dire. C'est même pas qu'ils le refusent, c'est qu'ils ne savent même pas. Un tiers de l'humanité. Est-ce que ça nous réveille la nuit ? Est-ce que ça nous concerne ? Le fait qu'un tiers de l'humanité ne sache pas qu'il y a un Jésus qui sauve parce qu'il n'y a personne autour d'eux pour leur dire. Avant la crise en Haïti, j'enseignais au séminaire du STEP et un des jeunes du séminaire organisait un camp de mission et m'a demandé de revenir en 2018 pour être orateur à ce camp de mission. Et la vision de ce jeune, Guillaume Fritz, c'était d'envoyer des missionnaires de Haïti aller annoncer l'évangile à ce tiers de l'humanité qui ne sait pas qu'il y a un Jésus qui sauve. Il faut quand même remettre les choses dans son contexte. En Haïti. Haïti, c'est ça a été jusque-là comment dire, le terrain de jeu des missions américaines qui envoient des enfants et des jeunes et des groupes de jeunes et des groupes de seniors faire des missions court terme. Autrement dit, Haïti a bénéficié d'un apport missionnaire important et souvent très mal négocié au final. Et lui voulait renverser la vapeur en disant il y en a marre de recevoir, nous aussi on veut envoyer des missionnaires. Et quand vous savez que le salaire moyen en Haïti, je veux dire, il faut une année pour... Mais il faut à peu près 2-3 années de travail pour payer un billet d'avion. C'est juste hallucinant, vous voyez. Puis tu me dis, moi, il faut que je prenne un avion pour aller partir annoncer l'évangile au loin. Mais je veux dire, mais qui, comment, quoi? Et lui, il disait, mais c'est pas notre problème. Le Seigneur, il dit, va. Est-ce que déjà vous avez envie d'y aller, quoi? Et c'est incroyable de voir le feu qu'il a pour l'évangélisation, parce que pour lui, c'est urgent. Et il se dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas Haïti? Pourquoi pas nous devenir une terre d'envoi de missionnaires, plutôt de continuer à les recevoir? Et quand je suis retourné en France, je me suis dit, mais nous, les Français, on fait quoi là? Tout le temps en train de chialer, hein, on n'a pas assez de sous. Les Américains, il faut qu'ils nous donnent de l'argent, parce qu'il faut qu'on ait nanani, nanana. J'ai dit, mais vous envoyez, on envoie des missionnaires, nous, la France? Ça s'est fait depuis des années qu'on n'envoie plus de missionnaires. Donc du coup, on envoie les Suisses. Mais ouais. Parce qu'on entend parler qu'il faut aller évangéliser les peuples non atteints. On dit oui, mais bon, les Américains, ils n'ont qu'à y aller. Puis après, s'ils n'ont plus d'Américains, ils envoient les Suisses. Ouais. Mais ça ne marche pas comme ça. À la mesure dont une nation est généreuse, je crois que le Seigneur la bénira. Dans sa proportion à donner, c'était bien l'appel d'Abraham, c'est tu seras une bénédiction pour les autres, pas pour toi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont convaincus de l'urgence d'évangéliser? Ouais. Il y en a qui sont convaincus. Je pense que si vous êtes de ceux qui font là, dire ouais, prêche, probablement vous souffrez d'une maladie qu'on appelle celle de l'évangéliste. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai le virus. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est une thérapie. Vous vous regardez tous les matins dans la glace en disant « Je suis un ou une évangéliste. » C'est pas grave. C'est pas grave. Ça se traite. Mais ça se maltraite aussi, les évangélistes. Hein. Souvent, les évangélistes, ils n'ont pas bonne presse. Hein. Dans les églises locales, ils nous tannent, nous, les pasteurs. Hein. C'est toujours en train de râler. Le pasteur, il regarde et il dit « C'est formidable de vous voir tous ensemble. » Et puis l'évangéliste fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, il manque 10 personnes. Bougez pas, je reviens. Mais on est en train de louer le Seigneur. Où vas-tu? Je vais chercher ceux qui doivent remplir les 10 là. L'évangéliste voit toujours ce qui manque. Hein. C'est sa préoccupation. Il adore les portes, surtout les portes de sortie. La difficulté souvent, c'est que comme il est maltraité, et ben il est tenté de faire de l'évangélisation dehors. Mais c'est pas de l'évangélisation si tu les ramènes pas dedans. Parce que la porte, elle fonctionne dans les deux sens. Jésus a dit quand même, faites de toutes les nations des disciples. En allant. C'est-à-dire qu'on on y va et on les ramène. Et donc l'évangéliste doit aimer l'église locale, même si l'église locale la maltraite. Parce qu'on ne peut pas faire des disciples dehors, ça n'a pas de sens. L'évangélisation, c'est un double mouvement. On sort et on les fait rentrer. Vous comprenez? J'aimerais qu'on prie pour les évangélistes ce matin. J'ai demandé à Cécile, à Joël et à Christelle de venir me rejoindre. Et si Dieu vous a mis à cœur l'urgence d'évangéliser, et ça brûle au fond de vous, et vous ne comprenez pas pourquoi l'Église est tellement tiède, et même les chrétiens sont tellement tièdes. Et même peut-être votre GBU est tellement tiède. Continuez à brûler. Parce que c'est une vocation divine. Vous appartenez à Christ. Et Christ vous donne à l'Église. afin que vous puissiez continuer à rappeler à l'Église que la volonté du Père, c'est que toute l'Église annonce tout l'Évangile au monde entier. Et donc j'aimerais qu'on prie pour vous. Vous êtes évangéliste, vous avez cette urgence de l'évangélisation, eh bien, je vous invite à faire un pas en avant, de venir en avant, là-devant. Et je vais demander à Christelle, Joël, Cécile de venir, et puis on va vous bénir. On va vous bénir. Pas tout le monde est appelé à être évangéliste, nous sommes tous appelés à être témoins de l'Évangile, mais certains d'entre vous sont appelés à être évangélistes de ceux qui vont continuer à saouler les pasteurs et les responsables de GBU en disant « c'est urgent, c'est maintenant, pas dans 4 mois ». Alors venez, on va vous bénir. Ça va ? On a le temps pour un dernier ? Pourquoi un tel décalage ? Ils ont perdu la notion de valeur, ils ont perdu la notion de mission, ils ont perdu la notion de temps. Et enfin, dernière notion dont ils perdent de vue, c'est la notion de personne. Mais tu vois ça où ? Ben verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, verset 27, qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Vous savez, pour les disciples, tout ça, c'est extrêmement embarrassant. C'est gênant, c'est hyper, hyper, hyper gênant. Les disciples se disent « Purée, il y a un journaliste là qui est planqué derrière le talus. Il prend une photo de Jésus avec la Samaritaine, là c'est fini, là c'est là, il a explosé la règle de Billy Graham. La fille, en fait, c'est même pas, enfin je veux dire, il est même pas conscient de c'est qui la fille, quoi, qu'elle a eu 4 maris, laisse tomber, quoi. C'est quand elle rentre dans le village, elle me dit, quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai, bah oui, on est tous au courant de tout ce que t'as fait déjà, merci. T'avais besoin que Jésus le Messie te le rappelle. Je te rappelle quand même que t'es la risée du village, hein, ma fille. Assieds-toi, c'est bien. Ils sont hyper gênés. En plus, lui, il est juif, elle est samaritaine. Alors, hein. C'est pas cachère. Et puis alors, ils se regardent les uns et les autres en disant, mais c'est qui va lui dire quand même ? C'est toi, Pierre, hein ? C'est toi, la grande bouche, là. Puis Pierre, il dit, non, moi, à chaque fois que j'y vais, arrière de moi, Satan, c'est bon. Hein. Moi, j'ai donné. Hein. Je dis, toi, Jean, t'y vas parce que toi, t'es le disciple bien-aimé. Puis lui, il t'aime bien. Je réfléchis. Judas, tiens, toi qui as fait rien que de piquer dans la caisse, va donc lui parler, lui. C'est ça que j'aime dans le chemin de l'incarnation, c'est qu'ils passent complètement à côté du sujet. Ils sont hyper embarrassés en disant waouh, qu'est-ce qu'il va lui dire, qu'il se plante là, mais ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Un, c'est une femme, deux, une samaritaine, mais ah, wake up. Faut dire que jusque-là, la mission a été monoculturelle. C'est-à-dire que si vous trouviez des disciples annoncer l'Évangile, c'était à des disciples juifs. C'était des disciples de Jean-Baptiste. C'était des juifs pour des juifs. C'était des hommes pour des hommes. C'était des mâles pour des mâles. Et en fait, c'est le premier épisode transculturel dans la chronologie des synoptiques. C'est le premier épisode transculturel. Et quelque part, quand Jésus va dire à la fin de Matthieu, et vous serez mes témoins dans les pantata ethne, parmi toutes les nations, toutes les ethnies, c'est bien cet épisode de la Samaritaine dans Jean 4 qui est le point de liaison entre l'évangélisation monoculturelle et l'évangélisation de toutes les nations. C'est par là que ça passe. Et donc pour eux, c'est la première fois qu'ils découvrent la mission transculturelle. Transculturelle. Et c'est pour ça que Jésus va y rester 2 jours de plus. Pour bien expliquer que l'Évangile, c'est pour tout le monde. Et pas juste pour ceux qui te ressemblent. D'ailleurs, c'est étonnant parce que quand même, Jésus dire. Vous adorez ce que nous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et pourtant, il parlait une Samaritaine. Et Jésus incarne très très tôt dans l'histoire de l'Évangile le fait qu'il est le Messie pour les Pantataitné, pour toutes les nations, parce que l'appel à Abraham était d'être une bénédiction pour les Pantataitné, pour toutes les nations. Et il est l'accomplissement de la promesse à Abraham. Alors évidemment, donc les Juifs vont dire, attendez, nous sommes disciples de Moïse. C'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Galates, dira, si nous sommes sauvés par Moïse, quid d'Abraham ? Ben oui, parce qu'Abraham, c'est quand même 500 ans avant Moïse. Manque de peau, Abraham n'est pas sauvé. Et c'est là qu'il dira, le salut a toujours été par la foi, pas par la loi. Si Moïse était la condition nécessaire à être sauvé, Abraham n'est pas sauvé. Ça veut donc dire que nous sommes tous des fils d'Abraham et que le rôle de la loi est de pointer vers l'imperfection et donc la nécessité d'un sauveur. Vous comprenez, ça va ? Il y a cette opportunité qui nous est donnée ici au Québec de pouvoir accueillir 150 000 nouveaux migrants par an. Avec la volonté de l'État provincial de continuer à accélérer le mouvement, 1,5 million de nouveaux migrants, c'est la stratégie développée par le Canada anglophone, enfin le Canada, l'État fédéral. Et je me dis, quoi de mieux que des GBU pour être le réceptacle de cette mission transculturelle. Ça veut dire qu'il faut que vous dépassiez des horizons monoculturels si vous êtes dans des horizons monoculturels. Et que ce soit des horizons trop québéco-québécois, ou trop afro-antillais, ou je ne sais pas. Il faut qu'à un moment donné, vous fassiez place à les Pantataitné. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que le GBU, ça ne peut pas juste être de l'entre-soi. Parce que c'est urgent d'évangéliser. Et donc, il faut trouver des moyens de sortir de l'entre-soi. Même si on aime bien être dans l'entre-soi. Dominique Greiner dit « L'amour agapé, qui est une exception dans le grec, cette expression agapé, exprime essentiellement, en grec ancien, l'acte d'hospitalité avec lequel on accueille l'étranger, l'autre, et par lequel on lui fait place. L'agapé est reconnaissance et accueil d'une différence. Tout le paradoxe, c'est que beaucoup d'autres vous sont étrangers, mais Jésus vous appelle aujourd'hui à être l'hôte. Autrement dit, si vous continuez à définir votre présence au Canada par votre ethnicité, vous avez fait la même erreur que la Samaritaine. Votre identité est en Christ. C'était bien le dilemme de Paul. Mais qu'est-ce qu'il va dire ? Il a été appelé avant sa naissance. Son identité précède sa naissance et donc précède sa nationalité. Et nous sommes tous en Christ. C'est notre identité. Et le Seigneur vous invite à vous mettre dans la posture maintenant de celui qui va accueillir, y compris le Québécois. Étrange. Mais c'est bien finalement ce qu'ont fait ces Samaritains. Ils ont accueilli ces Juifs pendant 2 jours. Et donc, l'accueil et la reconnaissance et l'acceptation de cette différence, c'est quelque chose qui doit caractériser nos GBU. Si nous voulons être dans la mission transculturelle, nous devons à un moment donné nous rappeler que nous sommes appelés avant notre naissance en vue de connaître Dieu et de le faire connaître. Et cela est vrai pour les Pantataitné, toutes les nations. que Dieu place sur notre route. Alors il y a les patates à ethnées, mais il y a aussi toutes celles et ceux qui font des choix éthiques qui ne sont pas les nôtres. Nous avons ouvert une maison avec l'Union Baptiste qui s'appelle La Villa. Vous êtes invités à vivre à La Villa avec nous. Et l'une des premières questions du staff, c'est est-ce qu'on sélectionne ceux qui peuvent venir à La Villa ? Alors j'ai dit, ça va être compliqué sur Airbnb. Hein. Tu vas faire un questionnaire, puis tu vas mettre quoi sur le questionnaire ? Vous aimez Dieu un peu, beaucoup, assez, passionnément, et puis à la folie, ouais. C'est... Et on prend passionnément et tout ce qui est au-dessus, hein, mais alors tout ce qui est en dessous, on ne prend pas. Je dis, non. Et quelqu'un m'a dit, mais oui, mais alors s'ils sont... Je dis, et ? Je ne comprends pas. Je dis, ils n'ont pas le droit d'entendre l'évangile. Ah, mais si, bien sûr. Ah, bah, bon, ça va, donc il n'y a pas de problème. Tu l'accueilles, la différence, ou pas ? Je ne suis pas d'accord avec la différence. C'est pas ce que je te demande. Pas ce que je te demande. C'est pas ce que je te demande. Est-ce que tu es de ceux qui veulent mettre un filtre pour ceux qui ont le droit d'aller à la croix ? Hein ? Ouais. Tous ceux qui sont baptistes compatibles, vous pouvez venir à La Villa. Tous les autres, restez loin. Les pharisiens disaient, il n'y a rien d'extraordinaire à aimer les gens qui nous ressemblent. C'est pour ça que pour eux, Jésus ne pouvait pas être Dieu, parce que c'était un ami du monde, des gens de mauvaise vie. C'était ça, c'était comme ça qu'il appelait. Jésus ne pouvait pas être. C'est extraordinaire, hein, cette histoire de Simon le pharisien. On y repense. Simon le pharisien, qui invite Jésus pour le questionner, pour savoir si c'est effectivement le prophète que Moïse a annoncé, parce que Moïse a quand même dit « Elle gang, ma tribu là, j'enverrai un prophète qui sera plus grand que moi et vous l'écouterez. » Donc le gang de Moïse était à l'affût pour savoir si Jésus c'était effectivement celui que Moïse avait annoncé. Donc il l'invite pour effectivement voir si effectivement c'est celui que... Hein, d'accord, tout le monde suit. Bon. Et donc il l'invite... Mal, il l'invite, mais il est là, il accepte l'invitation. Et cette femme qui arrive, hyper embarrassant. Enfin, c'est le même truc qui se passe ici, quoi. Une femme qui débarque, commence à chialer, là, qui pleure, et puis qui lui lave les pieds avec ses cheveux, là. Mais c'est hyper indécent, enfin, je veux dire, c'est quand même une soirée hyper mondaine, quoi. Je veux dire, on est avec des gens qui se tenir en public, tu vois, des gens politiques qui ont une épaisseur sociale. Tu vois, la fille, elle arrive, elle chiale, pleure sur ses... Puis Simon, il regarde cette femme, et puis il regarde Jésus, puis il se dit, ça peut pas être, il peut pas être le prophète. C'est ce qu'il dit dans le texte, relisez. Il peut pas être le prophète, c'est pas possible, c'est hyper embarrassant comme situation. Vous savez le paradoxe de cette histoire-là ? Pourquoi est-ce qu'elle pleure ? Parce qu'elle veut couvrir le péché de Simon. Elle est profondément scandalisée de la façon dont Simon a été un hôte. Il ne lui a pas lavé les pieds. Il ne l'a pas parfumé. Il l'a accueilli comme un type qui venait passer un examen théologique. Et cette femme est profondément offensée par la façon dont Simon a accueilli Jésus. Et elle est là, elle essaye de compenser la faute de Simon. Et Simon la regarde en disant « c'est une pécheresse !» Alors qu'elle essaye de compenser le péché de Simon. Et Jésus ne regarde même pas Simon, il regarde la femme et il dit « qu'est-ce que tu vois en elle ?» Celui... à qui on pardonne peu aime peu. Je suis venu, tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as pas accueilli, tu ne m'as pas lavé les pieds. Celle que tu condamnes, c'est celle qui essaye de payer pour ton péché. Et tu condamnes celle qui est venue payer pour tes dettes. Simon, tu vois rien. Elle a fait œuvre de propitiation. Et Simon était tellement, tellement indigné qu'il n'a même pas pu concevoir qu'on paye pour ses fautes. J'espère qu'on ne fait pas ça dans nos GBU. Hein. Quand on voit arriver des gens en se disant Moi, je vous dis, moi, j'étais à GBU à Strasbourg, on ne connaissait pas Rouya, on ne savait pas. Je crois qu'il y a eu quand même des tentatives de nous discipliner en nous expliquant que ce n'était pas Rouya que ça passait, mais nous, on discutait avec des punks jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. On amenait des gens à Christ, c'était de la folie, c'était de toutes les couleurs, c'était de tous les rangs sociaux, c'était le fun, quoi. Et plus les gens étaient fâchés avec Dieu, plus ils étaient plus on les adorait, quoi. Puis on leur courait après, quoi. Tu sais, des fois, ils avaient peur, quoi, en disant Puis on disait, mais c'est urgent d'évangéliser. Mais on a vécu des choses super et le Seigneur nous a fait cette grâce de l'agapé, de la reconnaissance et de l'accueil d'une différence. Mettez pas des conditions nécessaires, d'éthique, pour que les gens viennent à Christ. Si les gens ne sont pas nés d'en haut, ils ne peuvent pas changer leur vie. C'est ma prière pour vous. Que vos GBU soient un banquet désirable. Et qu'au travers de cette expérience, vous ne souffriez pas de décalage, parce que vous aurez pleinement accompli la mission de Dieu, qui est de festoyer sur le pain d'en haut, dans une compréhension de son urgence, avec un banquet ouvert à toutes les ethnies. Que le Seigneur vous bénisse.